Alors le festival Lettres d'automne, c'est du 18 novembre au 1er décembre. C'est la 23e édition de ce festival concocté par l'équipe de Lettres d'automne. Et c'est au tour cette année d'Albert Camus. Albert Camus, notre contemporain, c'est le titre de ce 23e Lettres d'automne. À cette occasion, Maurice Petit nous raconte l'histoire, la vie d'Albert Camus en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, épisode 2, Albert Camus, 1937-1945. Alors en 37, qu'est-ce qu'il fait Albert Camus? On l'a vu, il écrit L'envers et l'endroit.
Il vient de publier L'envers et l'endroit. En 37, il a 24 ans, il est tout jeune donc encore. C'est aussi l'année où il est exclu du Parti communiste. Ceci dit, je vous ai même pas dit qu'il y était, il avait adhéré au Parti communiste. On peut dire que c'était une adhésion plutôt d'ordre sentimental. À ce moment-là, Camus adhère au Parti communiste pour soutenir des revendications de côté population indigène et musulmane. Quand il ressent que le Parti communiste n'a pas vraiment l'intention de s'occuper de ces questions-là, il démissionne du parti. En 38, c'est une année importante pour lui parce que il va devenir journaliste, tout à fait par hasard. C'est-à-dire que Pascal Piat, qui était un journaliste parisien, était venu s'installer à Alger pour y créer un journal de gauche. C'était une idée assez originale à l'époque, de créer un journal de gauche à Alger. Enfin bon. Et Pascal Piat, qui connaissait Jean Grenier, l'ancien prof de philo de Camus, lui demande « T'as pas dans tes anciens élèves des bonnes plumes? Moi, je pourrais les former comme journaliste. » Et Grenier pense tout de suite à Camus. Il va le voir de ma part, ça devrait aller. Et donc Camus va être embauché, il demande au début à Pascal Piat, mais quelle va être ma spécialité, etc. Et Pascal Piat lui répond, enfin, mon bonhomme, ta spécialité, pour l'instant, tu feras tout. Hein, tu iras des chiens écrasés à la chronique littéraire. Camus va se former comme journaliste, va découvrir ce métier qui va le passionner toute sa vie, hein, puisqu'ensuite il y aura Combat, il y aura L'Express, etc. Il découvre ce métier, il découvre aussi peut-être, ce qui se fait moins maintenant, j'en sais rien, le goût pour le travail en équipe. C'était le cas pour le journalisme, ça a été le cas avant pour le football, ça sera le cas plus tard pour le théâtre. Il aime bien ce côté, comme quand on travaille dans une sorte de petit couvent en vase clos et ensemble on fabrique quelque chose. Et il adore ça. À côté de son travail plus solitaire d'écrivain. En 1940, à la suite de multiples articles censurés par le gouvernement général d'Alger, si j'avais le temps, je vous raconterais des anecdotes où il écrivait quand même parfois des lignes d'écrivains de son bord opposé et qui étaient censés plaire à un gouvernement général. Mais comme ça venait de lui, on censurait. Alors après, il rigolait bien en disant « mais c'était d'un tel ». Bon, bref. 40, c'est la guerre. Pascal Piat lui dit « Pascal Piat repart en France et encourage Camus à le suivre pour la suite de sa carrière ». Il y a aussi le fait que la maladie de Camus, sa tuberculose, s'aggrave et qu'il va aller se soigner au Panelier, c'est à côté du Chambon-sur-Lignon, où il va passer dans sa vie plusieurs séjours pour essayer de se refaire une santé. C'est à Paris qu'il va, avec Pascal Piat à nouveau, s'engager dans le réseau clandestin Combat, où il créera le journal Combat, d'abord clandestin, puis au grand jour après 45, dont il deviendra l'éditorialiste quotidien, très grand éditorialiste. Les Français, au tout début de la carrière de Camus, la première fois qu'ils ont entendu ce nom, et en quoi ce nom était célèbre, c'était en tant que l'éditorialiste de Combat, bien avant qu'il écrive quoi que ce soit. Mais très vite aussi, la première partie de l'œuvre de Camus, c'est-à-dire tout le cycle qu'on appelle le cycle de l'absurde, qui comprend L'étranger, Le mythe de Sisyphe, En essai philosophique et deux pièces de théâtre, Caligula et le malentendu, tous ces travaux vont être soit publiés quasiment en même temps, et les pièces jouées, et Camus, tout d'un coup, surtout par L'étranger, mais aussi par Le mythe de Sisyphe, va surgir dans l'univers littéraire de cette époque-là de façon très démonstrative et devenir très vite un écrivain célèbre d'une trentaine d'années.
C'est-à-dire que depuis 37, L'envers et l'endroit, il n'y avait eu que cette édition-là.
Et Noce, à Alger, ouais. Aussi, chez Charlot. Le Noce qui est publié en 39.
Et après, donc, il faut attendre 44 pour que tout le reste arrive.
Avant même. Ouais. 42 pour L'étranger, puis 3, puis 4. C'est-à-dire toutes les années qui suivent, là, c'est dans Caligula que débute Gérard Philippe, par exemple. 45, Le malentendu, où Camus fera la rencontre de Maria Cazares, qui sera une de ses grandes compagnes tout au long de sa vie.
Donc ces écrits sortent pendant la guerre et ça
ils sortent pendant la guerre et tout de suite après la guerre.
Ça pose pas plus de problème que ça dans l'édition pendant la guerre.
Non, pendant la guerre, il s'est publié énormément de choses, y compris de Sartre et beaucoup d'autres. Non, il faut pas croire que du fait de la guerre, l'édition souffrait énormément. Il s'est publié des tas de choses. Les Allemands étaient censés avoir un droit de regard, mais qui a été très, parfois assez bienveillant, disons. Bon. 45, donc quand arrive, alors pendant la guerre, justement, il rencontre Sartre. Sartre qui même, pendant la guerre, a voulu à un moment embaucher Camus comme acteur pour créer dans sa pièce, je ne sais plus si c'était Huis clos ou Les Mouches, je crois que c'est Les Mouches. Et Camus refusait. Bon, avec Sartre va naître à ce moment-là une amitié, beaucoup plus une amitié de copains. Sartre trouvait Camus très amusant. Puis il avait un petit côté patouette, un petit côté pied noir qui l'amusait, beaucoup plus qu'une complicité intellectuelle, puisqu'on sait qu'ensuite qu'entre eux ça va dégénérer lourdement. Hein. La fâcherie sera même importante en 1952. En 45, juste après la guerre, il va avoir une querelle importante avec Mauriac à propos de la suite à la fin de la guerre, de tout ce qui était les règlements de compte d'après-guerre, etc., par rapport aux collaborateurs et autres. En un premier temps, Camus est favorable à une épuration sévère, mais comme il est absolument contre la peine de mort, il va par exemple signer une pétition pour qu'on ne fusille pas Brasillac. Mais il est pour une répression sévère. Et Mauriac, lui, est pour une sorte de pardon, afin d'être un peu plus charitable par rapport à tout ça. Camus reconnaîtra quelques années plus tard que c'est Mauriac qui avait raison. C'est-à-dire que quand il a vu les extravagances de l'épuration, quand je dis les extravagances, c'est un euphémisme, il a reconnu plus tard que Mauriac avait raison. Si je dis ça, c'est pour, contrairement au monde des intellectuels de l'époque, Camus aura toujours été quelqu'un qui, quand il reconnaît qu'il a tort, le dit. Ce qui n'était pas tendance à l'époque. Hein. On était dans l'affirmation beaucoup plus que dans le doute. Or, Camus pensera toujours que c'est dans le doute que tout créateur se grandit, et non pas dans les affirmations péremptoires et les certitudes. Donc, en 45 aussi, il est le seul journaliste dans Combat à dire son désaccord total avec les bombes lancées sur Hiroshima. Il a été le seul. Et le seul aussi à rendre compte du massacre de Sétif en 1945 en Algérie. Massacre abominable, double massacre des deux côtés d'ailleurs. Mais il est, dès ce moment-là, persuadé que si rien n'est fait en Algérie, c'est perdu. Et ce qui sera évidemment le cas, il est le seul donc à protester à ce moment-là. C'est perdu, mais c'est pour lui le fait que l'Algérie, envisager que l'Algérie soit perdue, c'est un déchirement très profond pour lui, dans la mesure où ce pays est le sien.
Où est-ce qu'il vit à cette époque-là ?
Il vit à Paris, il déménage beaucoup, il n'est pas très installé à Paris. Il achètera son appartement, hein, qui est toujours l'appartement de sa famille d'ailleurs, rue Madame, dans le 6e arrondissement, je crois qu'il l'a acheté qu'en 51. Donc il vit à un moment dans un studio qui est dans l'appartement d'André Gide. Et puis dans Paris, il a beaucoup bourlingué, mais il faut dire qu'à ce moment-là déjà, son statut familial a changé. Il s'est marié en 45 avec Francine Faure, et il a ses jumeaux, Jean et Catherine Camus, qui sont nés, donc, il s'est marié en 44. Et les jumeaux sont nés en 45. Et avec eux, il va et vient dans Paris, s'installant définitivement donc en 51 rue Madame, qui sera son appartement familial jusqu'à sa mort.
Combat, c'était lu par qui ? Est-ce que c'était beaucoup lu à l'époque, ou
oui.
Est-ce que c'est finalement avec le recul qu'on connaît l'histoire de ce journal et qu'on connaît son contenu ?
Non, c'est un journal très lu. C'est un journal très lu. Je sais pas à quoi on peut le comparer. C'est pas la peine de comparer. Il y avait deux, trois journaux très lus, dont Combat. Et il n'y avait pas que le milieu intellectuel qui lisait Combat. Et par contre, tout le monde était extrêmement épaté par la hauteur de vue des éditoriaux de qui paraissait tous les jours dans Combat. Camus ne quittera Combat qu'en 1947, à la suite de désaccords d'histoire financière déjà dans la presse. Un groupe financier qui veut racheter Combat, il n'est pas d'accord, il s'en va.
Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Ce sera le prochain épisode, Maurice Petit, de la vie d'Albert Camus, que vous nous faites le plaisir de dérouler sur cette antenne.
Avec un peu de précipitation, je dois le dire.
Oui, mais effectivement, en 4 épisodes, la vie de Camus, c'est un peu un challenge aussi. C'est pour annoncer le 23e Festival Lettres d'Automne, qui va se dérouler du 18 novembre au 1er décembre. À bientôt, Maurice Petit.
À bientôt.